L'heure de la trêve internationale a sonné, mais nous sommes quand même là pour le dernier décrassage avant cette trêve. Épisode 10 du décrassage, déjà, ça fait beaucoup. On a tenu ce format chaque semaine, on en est très fiers. Le nouveau format que vous avez dans le plan national depuis le début de l'année, une heure à parler du week-end foot européen, de ses actus, de ses matchs. Donc pour en parler avec moi cette semaine, en ce lundi soir, j'ai le plaisir d'accueillir pour une deuxième fois d'affilée, notre champion incontesté du quiz, Alan. Comment vas-tu?
Ah, bah ouais, je savais pas que j'avais ce titre-là qui m'était décerné. Ça va encore mieux, du coup. Je me sens encore...
Ah, tu te sens plus valorisé, du coup.
Ouais, c'est ouais. Ça. Ouais. Bon, non, ça va super bien. En plus, on approche des températures printanières. Donc, les blousons, mais les petits pulls, on regarde
On approche les 20 degrés hein, ici, donc...
Ouais, on regarde plus les matchs avec un chocolat chaud, c'est plus avec une petite coupe de champagne ou du.
Ah, tu es champagne, toi.
Ah bah hier
tu
soir,
as ce budget.
Hier soir pour le Atlético Barça, j'étais avec des supporters barcelonais, il y a eu le champagne qui est sorti.
Ah, ça a été sabré?
Non, c'était à la franc-comtoise.
À la franc-comtoise. À la bisontaine.
À la Bezac.
Bezac, et voilà, Karel vient de froncer les sourcils à la prononciation du nom Bezac. Comment vas-tu, Karel?
Avec tout le respect, hein, j'ai pour Besançon, bien sûr, c'est une discussion qu'on a eue en off. Un peu surpris de savoir que, voilà, il y a un surnom pour Besançon, mais je veux dire, encore une fois, beaucoup de respect. Écoute, ça va très bien, Quentin. Content de revenir dans le décret. Pour parler un peu de foot, pas de Besançon, si
oui,
possible.
Et puis, en plus,
on pourra en parler longtemps, on a un expert.
En plus, là, on a vraiment les meilleurs représentants de cette émission, puisque nous représentons à nous seuls la meilleure compétition européenne de football de cette année, qu'est l'Europa League.
Parce qu'attention, les affiches, hein.
Ah oui.
Faut respecter l'Europa League.
Voilà, on n'en parlera pas aujourd'hui de l'Europa League, mais on peut voilà se congratuler d'avoir chacune de nos équipes en quart de finale d'Europa League.
Et qui font vivre l'Europa League.
Tout à fait, parce que ce sont...
parce que tout le monde parle de la Ligue des Champions, c'est un énorme cessé, on va en parler tout à l'heure.
Non, n'écoutez pas, nous écoutez pas.
Je rentre quoi.
Oui, t'es en train de niquer le programme là, c'est pas grave. Ouais, parce qu'on va parler de la Ligue des Champions et de la hype hein, concernant les quarts de finale, puisqu'on a eu le tirage au sort ce vendredi et on va en parler quand même, puisque ça reste important. Et puis, ça sera l'actu aussi de temps additionnel pendant cette deuxième partie de saison. Et puis, on va parler bien sûr de Barça Atlético. On aura un mot aussi sur Vincenzo Italiano, l'entraîneur de la FIO, en fin de podcast. Et puis, bien sûr, le quiz de fin d'émission. Je le disais, hein, trois équipes d'Europa League, hein, Liverpool, le Milan et le grand Olympique de Marseille.
J'ai eu une petite pointe au cœur en entendant équipe d'Europa League suivie de Liverpool, ça m'a fait mal.
Ah puis ouais, Liverpool c'est contre l'Atalanta, hein, c'est ça hein.
Oui, c'est ça, c'est ça exactement.
Match pas simple, mais à la portée. Hein,
c'est pas le pire tirage, mais...
Faut être vigilant quand même, l'Atalanta depuis l'année dernière, ça commence un petit peu à remonter en termes de niveau de jeu, donc...
Liverpool qui avait joué l'Atalanta en Ligue des Champions.
Oui.
En phase de poule
2019-2020, non?
Et Liverpool était allé mettre 5-0 à l'extérieur à l'Atalanta avec un triplé de Diogo Jota.
C'était en 19-20, non?
C'était en 19-20, c'était année Covid en fait. C'était année Covid, donc.
Parce que la dernière fois que. Ouais, c'est ça.
Tant mieux d'ailleurs, parce que sinon ils auraient vu Liverpool mettre 5-0 à leur équipe.
C'est vrai. et puis Milan, ça sera contre
la Roma.
Et oui. Et là, c'est intéressant.
Là, c'est intéressant.
J'aime bien les matchs, voilà. Les matchs de même nation, championnat en Coupe d'Europe, ça me hype moi. J'aime bien.
Et puis moi, on va avoir mardi, mercredi, jeudi en avril. On va se régaler en vrai. Pour de vrai.
Et Marseille, Liverpool qui pourraient se croiser.
Ouais, en demi. Ouais. Bah après, moi, franchement, je l'ai dit en off dans le groupe. Hein, c'est du bonus maintenant. L'important pour Marseille, ça sera.
Oh là là. Oh, il est en conférence de presse, ça y est.
Voilà, l'important pour l'équipe, c'est le top 3.
Il se prend pour Jean-Louis Gasset.
Le reste, c'est du bonus. Je suis un entraîneur français moyen qui n'a pas d'ambition.
Mouille-toi.
Non, en vrai le Benfica, ça reste à la portée du groupe. Mais après, demi-finale, tu tombes soit sur l'Atalanta ou Liverpool. Donc, c'est l'Europe, il peut y avoir des exploits. C'est une équipe
qui ferait du bien quand même.
Ouais.
En parcours de cette saison, de s'offrir quand même une petite demi quand même.
Mais si c'est au détriment du championnat, je suis un peu moins fan. Mais bon, c'est un autre débat que vous pourrez très probablement entendre dans le podcast à la commanderie. Un podcast, encore une fois, sports content de qualité. Messieurs, commençons ce décrassage par parler de la grosse affiche du week-end. C'était Atlético FC Barcelone, un match qui s'est soldé étonnamment, moi, je trouve. Je ne pensais pas qu'on aurait ce score ce week-end. Enfin, pas beaucoup l'ont pronostiqué. Moi, j'avais pronostiqué un bon match nul. Et ben l'Atlético s'est fait atomiser à domicile par le Barça, victoire 3-0 des joueurs catalans. Ça a vraiment été une grosse surprise, je trouve, ce résultat. Au-delà de la physionomie, on a vu quand même un Barça plutôt dominateur au final dans l'ensemble de la rencontre. Un Atlético qui a eu des occasions en début de rencontre, mais qui n'a pas vraiment su tuer cette ascendance. Ça a été assez stérile jusqu'à la 30e. Et puis, tu as eu cette ouverture du score de Joao Félix à la 38e, qui a donné en fait un avantage déjà au score au Barça. Et puis, psychologiquement, dans cette rencontre derrière, ça a été très compliqué pour les Colchoneros de revenir.
Ouais, clairement. En plus, on se disait justement que l'Atlético pouvait faire un truc avec leur victoire en Champions League. Mentalement, on pensait que ça allait les revigorer. Alors qu'au final, physiquement, je les ai trouvés empruntés, surtout en seconde période. Ils n'arrivaient plus à trouver les éléments offensifs pour essayer de contrecarrer les plans du Barça. Mais je trouve quand même que l'Atlético, quand il faut être réactif, et c'est le cas depuis toujours avec Simone, c'est toujours compliqué, ils ont peu d'imagination quand ils sont menés au score très tôt. Ouais. Et du coup, ça a profité au Barça tout le long du match. Hein, et je trouve que la deuxième chose que je voudrais noter quand même, c'est que pour un match d'une telle envergure, se séparer de Koke et Griezmann dès le début, moi j'ai trouvé ça assez surprenant de la part de Simeone, parce qu'un Barça-Atlético, ça reste quand même une immense affiche en Liga. Et le 3-0, pour moi, il fait hyper mal pour l'Atlético, hein, parce que déjà, 3-0, pour moi, déjà, c'est le score honteux, un peu. C'est un peu le score... tu sais que tu as pris une fessée, c'est à partir de 3-0 déjà.
Tu lâches la manette, quoi.
C'est ça. Et surtout que maintenant, l'Athletic Club est passé devant eux. Hein, donc, il faut être vigilant côté Atlético. Donc, ce n'est pas du tout rassurant pour la suite, pour les hommes de Simeone.
Moi, ce qui fait que j'ai été surpris, c'est que j'ai trouvé l'Atlético vraiment bon contre l'Inter. Alors que... contre l'Inter justement il fallait refaire ce déficit déjà de un but, que t'étais contre une équipe qui est quand même finaliste de la dernière Ligue des Champions, qu'on annonçait peut-être potentiellement comme un épouvantail de cette édition là et je trouve que tu fais un match où l'Atlético est très protagoniste quand même, prend le match par le bon bout, c'est que il est au Wanda et qu'il doit refaire son retard, et c'est franchement pas l'affiche devant laquelle je m'attendais à me régaler le plus, et c'est peut-être pas loin d'être le cas au final. Moi j'ai vraiment adoré ce match là et c'est aussi parce que l'Atlético, je trouve, a été très entreprenant, très bon, très menaçant, donc je m'attendais franchement à une grosse confrontation pour le Barça, sachant qu'en plus tu pouvais pas prendre l'excuse de l'Atlético a joué en semaine, puisque c'était le cas du Barça aussi qui s'est imposé contre le Napoli. Donc je pensais que ce serait plus difficile que ça pour le Barça, et au final le Barça a montré que c'était peut-être eux l'équipe qui était la plus prête aussi en amont de son prochain tour de Ligue des Champions, et puis pour le championnat également, qui a montré qu'il passait peut-être un cap au meilleur des moments avant le sprint final, avec notamment, on a beaucoup parlé du but de Joao Félix, parce que forcément il marque contre son ancien club, que ça avait déjà été le cas à l'aller, cette fois il n'a pas célébré au Wanda, mais moi j'ai envie de parler de Lewandowski, que j'ai trouvé
excellent,
et peut-être pas la première fois, mais de retour là à un très très bon niveau, là où moi j'attendais Lewandowski, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il marque énormément de buts. Alors c'est difficile quand même d'attendre ça sur un passage Bundesliga, enfin de Bundes à la Liga, je pense, parce que c'est quand même pas le même championnat, les défenses sont peut-être pas aussi ouvertes, mais je trouve que dans l'animation de cette attaque, dans ce rôle de leader offensif, il fait deux passes décisives au final, plus son but qui est très très beau, la passe décisive pour débloquer le match pour Joao Félix, le centre pour Firmin. C'est quand même des actions vraiment de playmaker, et c'est en ça que tu peux attendre qu'il soit présent dans son rôle de leader de l'armada offensive. De l'armada offensive, c'est peut-être un grand mot, mais leader des éléments offensifs du Barça.
Ouais, Lewandowski, moi j'ai surkiffé aussi. Je pense qu'il faut quand même mettre beaucoup plus de respect sur lui parce que les gens, j'ai l'impression, ils en attendent beaucoup, 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 comme s'il était encore dans la fleur de l'âge, alors qu'il a quand même 35 ans, Lewandowski. Il n'arrive pas avec 27, 28 ans dans les jambes. Si je te cite des grands attaquants comme, je sais pas, moi, Eto'o, Raoul, David Villa, Thierry Henry, qui en Liga, eux, ont performé jusqu'à 30 ans, lui, il le fait à 35 ans. Donc, faut lui mettre à son crédit. Et je trouve qu'avec un Lewandowski qui, on le sent aussi plus affûté, on sent qu'il gueule moins vers les arbitres, on le sent moins stressé, j'ai l'impression qu'il peut, pour la suite de la compétition, faire beaucoup de bien au Barça. Et ça permet aussi à Xavi de s'appuyer sur un des meilleurs joueurs de l'histoire. Hein, faut le dire aussi, hein, Lewandowski, ça reste un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc, je pense que tout a souri au Barça, qui en plus jouait sans Pedri, Gavi, De Jong et Cancelo.
Mais j'aimerais quand même qu'on soulève un point sur cette rencontre, c'est la performance en fait collective du Barça, qui on l'avait annoncé en amont de la preview qu'on a sortie ce week-end, que l'Atlético était quand même invaincu à domicile en Liga depuis le début de saison. Que l'Atlético, le seul match contre un gros qu'elle a raté cette saison réellement, c'était contre le Barça à l'aller à Montjuïc. Là. Encore une fois, c'est le Barça qui vient faire chier l'Atlético en championnat dans un gros match. Et le Barça a quand même, c'est pas rien d'aller gagner hein, au Metropolitano. Là, le Barça a fait une vraie perf et a su exploiter à merveille les défaillances, notamment défensives de l'Atlético, puisque le deuxième but, vraiment, c'est vraiment symptomatique de ce qui s'est passé hier soir. Hein. Grosse perte de balle à 30 mètres. Derrière, l'Atlético est clinique et puis Lewandowski te met. Un but qu'il est capable de mettre et qu'on connaît, qu'on sait qu'il est capable de mettre justement. Donc voilà, et puis de l'autre côté, offensivement, côté Atlético, Karel, tu l'as dit, il y a eu des intentions, mais en face aussi, tu as eu un très grand Ter Stegen. Ter Stegen a été
oui, notamment
incroyable.
Sur une double occasion à 2-1.
Parade, à 2-1
sur une
ouais.
double occasion à 2-1, ou enfin à 2-0.
2-0
ça peut
ouais.
faire 2-1, où c'est très important justement d'être
ah, sachant que l'occasion, si je me rappelle bien, elle est à la 50e, un truc comme ça.
Oui, oui. Enfin, là, t'es en dessous de l'heure de jeu, en tout cas.
Ouais, voilà.
Tout est faisable encore. Tout est imaginable.
C'est ça. À le domicile, soutien du public, tu peux te relancer. Mais là, wow, c'est un coup d'arrêt. C'est un coup de massue que tu te prends. Une occasion pareille. Et j'aimerais aussi quand même qu'on souligne quelque chose, c'est que depuis quelques semaines, honnêtement, j'ai été le premier à les critiquer cette saison, je pense, et j'ai pas été le seul dans cette émission, mais le Barça, depuis quelques semaines, a une dynamique, une réelle dynamique, a enclenché une vraie marge en avant, pas seulement en termes de résultats, mais en termes de jeu. Je les trouve beaucoup plus attractifs, beaucoup plus, c'est beaucoup plus vivant, balle au pied, la cohérence dans la construction des attaques. J'ai trouvé un joueur comme Firmin Lopez, par exemple, ultra important dans la gestion de ces moments-là. Malgré son jeune âge à Firmin Lopez, de l'effectif catalan en général, hein, parce que quand tu regardes le 11 de départ, c'est du très jeune, mêlé à de la grosse expérience, hein, Koubarsi, Forte, voilà, c'est pas des foutres de guerre, Yamal, Lopez, enfin voilà, même Félix, qui est encore très jeune, mine de rien. Donc c'est assez impressionnant, je trouve, depuis quelques semaines, et c'est là où tu te dis que au final, le tirage au sort de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, il n'est pas si simple que ça. Parce que si le Barça maintient ce niveau de jeu d'ici le mois prochain, la double confrontation va être plus disputée que beaucoup le pensaient, je pense.
Oui, je pense qu'à l'image d'un Bayern où tu as un Tourelle qui a aussi annoncé qu'il quittait le Bayern en fin de saison, je pense que le fait que Xavi annonce son départ comme ça, ça a dû faire du bien aussi aux joueurs. Ils se sentent plus libérés, ils jouent moins avec la boule au ventre. Xavi aussi, on le sent un peu moins. Enfin, il est toujours, c'est un mec qui est toujours énervé, Xavi, c'est sûr. Mais on le voit quand même beaucoup moins.
Ils sont rouges encore là.
Ouais, mais avec ses joueurs, je veux dire, pas avec les arbitres. Mais... Donc, je trouve que c'est de bon augure pour le Barça. Et justement, oui, je pense que ce 3-0, ça a envoyé un beau message aux Parisiens. On aura l'occasion d'y revenir après, hein, mais je pense que oui, la rencontre va promettre beaucoup de choses et beaucoup de surprises. Peut-être un scénario rocambolesque, qui sait.
Qui sait.
Ah, c'est pas comme si c'est une affiche qu'on avait réservée par le passé, hein, pas du tout.
Non.
Non, mais juste pour renforcer ce que tu disais aussi, Quentin, par rapport à la perf d'aller gagner au Wanda. Je regardais pour vérifier pendant vos prises de parole. Et c'est vrai qu'au final, quand on regarde, le Real Madrid a perdu deux fois cette saison, et c'est deux fois contre l'Atlético et deux fois au Wanda. Une fois en Liga et une fois en Coupe du Roi. Le Real qui n'a pas perdu en phase de poule de Ligue des Champions, qui n'a pas perdu sur ses confrontations face à Leipzig, qui a perdu une seule fois en championnat. Et à chaque fois, c'était au Wanda contre l'Atlético. Donc ça montre que c'est une équipe qu'il faut aller déranger, qu'il faut aller... leur mettre 3-0, c'est pas anodin en plus. Et c'est une équipe, voilà, je le redis, mais qui sortait d'une prestation plutôt convaincante contre l'Inter. Donc si le Barça réussit à sortir ce type de prestation pour se mettre en confiance, à être dans une certaine continuité, à avoir des cadres qui montent en puissance au meilleur des moments, c'est le moment. Le moment est très bien choisi parce que la Liga, ça va sûrement être compliqué. Par contre, la Ligue des Champions, on en parlera après. Sait-on jamais.
Le Simeone, en fait, je crois qu'il faudrait vérifier la stat, mais il n'a jamais battu Xavi. Sur les 5 dernières matchs, je crois que c'est 5 victoires à vérifier. Mais Xavi a un ascendant psychologique sur Simeone, c'est assez fou. Quand on sait que l'entraîneur Colchonero, ça reste un mec super fort mentalement. Donc ça aussi, c'était à prendre en compte.
Ah, c'est simple, Xavi, il est entraîneur depuis quand au Barça? 21
Ouais.
22 la dernière victoire de l'Atlético face au Barça remonte au 2 octobre 2021.
Ouais, donc il n'y avait pas Xavi en fait.
Non, l'entraîneur à l'époque c'était c'était Henrik Larsson. C'était Henrik Larsson qui était en intérim.
C'était un intérim.
Ouais. Alors, c'est la dernière victoire de l'Atlético depuis le Barça, c'est que des victoires face à l'Atlético.
Ouais, donc il y a vraiment cet ascendant psychologique là que Xavi a pris, alors que Simeone c'est le roi pour justement ne pas fondre psychologiquement. Donc bravo Xavi, faut le dire quand on a souvent critiqué.
Faut le dire aussi quand c'est bien. Ouais.
Et la perf elle est d'autant plus dingue parce que c'est le 4e clean sheet d'affilée contre l'Atlético.
Ouais, alors que faut le faire.
3 fois 1-0 et puis là le 3-0 genre ce dimanche. C'est pas mal.
Non, mais c'est à prendre en compte en plus pour, comme vous l'avez dit, pour les potentiels, bien sûr, parce que tout est à jouer encore demi-finale de Ligue des Champions. C'est un rendez-vous que tu peux potentiellement retrouver. Donc,
tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et l'Atlético, du coup, tu l'as dit tout à l'heure, Alain, qui, de par cette défaite, fait une mauvaise opération, puisque l'Athletic Club de Bilbao l'a emporté face à l'Alavés 2-0 et du coup, désormais 4e. Alors. L'Espagne peut encore être parmi les deux pays qui vont avoir une wild card, donc c'est-à-dire un 5e club en Ligue des Champions en fonction des résultats de ces clubs engagés en Coupe d'Europe. Mais il va falloir quand même sécuriser cette 4e place côté Atlético, puisque c'est la 2e défaite d'affilée en championnat après celle face à Cadix la semaine dernière. La trêve, je pense, va permettre une bouffée d'oxygène pour ces internationaux. Antoine Griezmann d'ailleurs ne partira pas avec l'équipe de France pour la première fois depuis très longtemps. 84 matchs, ça s'arrête 84 matchs sans forfait, s'arrête là. Donc il restera du côté de Madrid pendant la trêve internationale. Mais ouais, ça va peut-être faire du bien cette trêve internationale côté Colchoneros pour aborder le dernier tiers de cette saison avec peut-être plus de sérénité.
Il y a un Bilbao Atlético en plus au mois d'avril. Donc,
ouais. Et puis l'Atlético surtout reprend par un déplacement à Villarreal.
Ah oui, donc voilà. Attention.
Villarreal qui en Liga depuis quelques semaines va beaucoup mieux. Hein. C'est 4 victoires d'affilée en championnat pour les hommes de Marcelino. Donc c'est pas une rencontre à prendre à la légère pour Simeone. Voilà, pour ce qu'on peut dire sur cette rencontre. On va faire un petit tour quand même d'Europe pour savoir ce qui s'est passé ce week-end, notamment sur les affiches qu'on a traitées lors des previews. On va faire un tour du côté de l'Allemagne, les gars, avec cette victoire, j'ai perdu mon fil conducteur, de Dortmund, pardon, sur l'Eintracht Francfort 3-1. Dortmund qui a fait le taf, hein, très clairement, face à Francfort dans un duel pour l'Europe, hein. Francfort qui est encore placé pour la 6e place, hein. Il y a un écart quand même avec le top 4, donc Francfort va devoir batailler pour aller chercher un petit peu plus haut, mais ça risque d'être compliqué. Je pense que le principal objectif, ça sera la 6e place et devancer les équipes comme Augsbourg, Hoffenheim et Fribourg. Mais bonne opération pour Dortmund qui ne faiblit pas, hein, puisque le top 5 a gagné. Le top 5, tout le monde gagne. Leverkusen a encore gagné dans un match là aussi où c'était encore un peu chaud face à Fribourg. Mais ça gagne encore. Hein, c'est une machine infaillible, hein, le Bayern Leverkusen, qu'est-ce que vous voulez. Et puis le Bayern a gagné 5-2 face à Darmstadt. Stuttgart 3-0. Il garde sa 3e place. Hein, Stuttgart qu'on pensait potentiellement faiblir. Ça va plutôt bien du côté de Stuttgart, surtout ouais. depuis le retour de Guirassy. Donc c'est plutôt encourageant.
Ouais, ouais, vas-y, Karen. Pardon. Oui, non, mais en plus, tu l'as dit, c'est-à-dire que mentalement, il faut rester fort. Dortmund a été fort dans le sens où ils ont été menés assez rapidement quand même, en plus sur, sur une situation de contre où, et ben, où je, il me semble que c'est Marmouche qui part en contre et qui perd d'abord son, qui perd d'abord son duel et puis Götze reprend. Donc là, derrière, t'es contre une équipe de Francfort qui mène à Dortmund et qui essaye de s'accrocher à son avantage et Dortmund a longtemps poussé. Heureusement pour eux, ils ont réussi à égaliser en première mi-temps, mais derrière, fallait réussir à mettre ce deuxième but. Ça arrive tard quand même, ça arrive par Hummels. Ça arrive je crois à la 80e minute donc voilà et les Leverkusen j'ai regardé le match contre Fribourg et en l'occurrence c'était pas facile du tout non plus pour les Leverkusen. Le match aurait pu basculer pour Fribourg notamment sur une grosse occasion de leur numéro 9 après l'égalisation l'égalisation de Doan en plus qui est très bien amené et les Leverkusen encore une fois qui réussit à résister à la tempête, à résister au temps fort adverse lorsque c'est nécessaire pour prendre deux buts d'avance. En plus il y a un but de Patrick Schick qui est pas mal du tout, qui est assez particulier,
encore lui
ça touche les deux poteaux, voilà. Donc voilà la course à la Ligue des Champions là en l'occurrence c'est pour le titre pour les Leverkusen, mais la course à la Ligue des Champions bat son plein en Allemagne. Et concernant le titre, quand on voit quand même parce que les matchs que les Leverkusen réussit à remporter aussi, c'est pas du hasard, c'est pas de la chance. C'est quand même une équipe voilà, qui a vaincu cette saison et ça se voit. Et puis c'est un peu en plus dans la lignée de ce qui s'est passé pour eux en Europa League contre Karabag. Donc apparemment, Xabi Alonso réussit à transmettre un peu cette mentalité à toute épreuve à ses joueurs sur ce sprint final. Il lâche rien. Donc,
Et fait important hein, pour le retour de Trèves en Bundesliga, il y a un classiqueur lors du retour de Trèves. Au Signal Iduna Park. Ouais. Donc,
n'arrive plus à me hype pour les classiqueurs. Moi.
Ah ouais.
Ah ouais. Trop vite de se faire gifler.
Ah, tu vois des buts. Mais... Hein, tu vois des buts.
Dans le fond, sur la deuxième partie de saison, ça commence à devenir un peu sérieux quand même.
Non, mais oui. En plus, cette saison, je rigole, hein, je vanne, mais ça risque d'être peut-être un peu plus serré au vu du contexte aussi du Bayern. Donc, non, plus sérieusement, non, mais la Bundes cette saison, c'est y a du suspense quand même, même s'il y en a peut-être un peu moins pour le titre, mais voilà, les Leverkusen a fait en sorte que le suspense soit réduit au fur et à mesure des journées, donc bravo à eux.
On fait un petit tour du côté de l'Angleterre, Karel ?
Non. Pourquoi ? Il n'y a rien eu à voir, hein. Il n'y avait pas beaucoup de Première Ligue, je vois pas de quoi
non,
tu veux.
Non, mais on a parlé des FA Cup ce week-end.
Oui,
Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, j'ai envie de te dire que c'est totalement de la faute de Liverpool. J'ai été capable, Quentin et Alan en sont témoins, de louer les adversaires de Liverpool lorsque c'était mérité. Je l'ai tout le temps fait. Je pense que là-dessus, j'ai toujours été assez...
C'est vrai que t'es plutôt objectif.
J'ai toujours été assez objectif, je pense. Par contre, là, je trouve pas que Manchester United a été particulièrement bon. Je pense que c'est beaucoup du fait de Liverpool. Alors, c'est aussi une certaine preuve d'objectivité de dire que Liverpool n'a pas été bon.
L'entrée de Gakpo.
J'ai du mal à blâmer Gakpo, parce que pour moi, quand il mène, quand il rentre, Liverpool mène. Le problème, c'est surtout que défensivement, au niveau de ton bloc équipe aussi, tu te relâches. Tu permets à Anthony de se retourner dans la surface et de marquer du pied droit. À partir de là, je pense que ça en dit long. Et puis surtout, le gros problème, c'est que Liverpool a eu, je sais pas, 5-6 situations de contre pour tuer le match. Alors là où je peux te rejoindre sur Gakpo, c'est que Gakpo, justement, sur certaines de ces situations, pour moi, ne fait pas la bonne passe. C'est un joueur qui n'est pas en confiance en ce moment, qui malheureusement aussi joue des bouts de match, mais je pense que c'est un, là comme diraient les Anglais, c'est un squad player aujourd'hui. Gakpo, vu le monde qu'il y a devant, il est obligé d'avoir ce rôle là mais il ne rentre jamais au même rôle. Parfois il est utilisé à gauche et je pense que c'est son meilleur poste, mais c'est rare qu'il soit utilisé à gauche. Parfois il est utilisé en neuf et là en l'occurrence je pense vraiment pas que ce soit son meilleur poste. Donc je pense qu'il est pas en confiance. Par contre, Liverpool globalement en tant qu'équipe a eu les occasions pour tuer le match, pour marquer le but du 3-1 et ne l'a jamais fait. Et derrière bah, t'es puni par une équipe de Manchester United. Par contre, j'allais dire qu'il a saisi ses occasions. Alors, c'est un peu paradoxal parce que Rashford en a une à la 90e. Pour moi, il y a hors-jeu. Mais voilà, il la met à côté. Mais en dehors de ça, Manchester United, je trouve, a été plus réaliste. Alors, les XG sont à leur faveur, mais les situations de compte qu'a eu Liverpool ne se traduisent pas en fait en XG, justement parce que les situations sont mal jouées. Et lorsque tu as des situations où tu es en 5 contre 3, 5 contre 2, normalement, ça, c'est les situations que les Reds maîtrisent parfaitement et sont dans leur, sont justement dans leur confort pour conclure ces situations-là. Ils ne l'ont pas fait. J'ai trouvé que, comparé à ce que tu voyais sur les semaines passées, sur les rencontres précédentes, où pour moi, ils étaient presque irréprochables au vu du contexte en plus, là, tu as peut-être eu un peu de suffisance. Un peu moins d'envie de gagner. Alors c'est dur de dire ça parce que je pense qu'ils avaient très envie de gagner Old Trafford pour s'offrir cette place en demi de la FA Cup.
Ouais, bien
et
sûr.
Voilà, les Reds pour moi qui ont totalement déconné. D'ailleurs le son de cloche chez Virgil van Dijk, chez Klopp, chez les supporters, chez la plupart des observateurs, c'était que c'était en grande partie de leur faute et je pense que c'est le cas. Après, bravo à Manchester United qui a saisi ses occasions avec des individualités, pardon, je trouve qu'on fait des très bons matchs, notamment le encore très très jeune Kobbie Mainoo que j'ai trouvé excellent. Et puis à Matt Diallo au final, bah voilà, ça je finis pour vous laisser la parole là-dessus, je le redis, mais la gestion du corner offensif de Liverpool est donc la gestion défensive de Liverpool sur leur corner offensif, sur l'action du compte de Manchester United, pour moi, traduit totalement tout mon propos. C'est-à-dire que c'est catastrophique. Derrière, tu laisses un seul joueur, Harvey Elliott, qui fait la touche de trop, et ça part en contre éclair pour Manchester United, et Amad Diallo, qui est clinique sur ce contre-là. Donc voilà, pour moi, Liverpool ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Avait le match en main, avait tout pour se mettre à l'abri. C'est dommage, et bravo à Manchester United.
Non, mais je pense que tu as fait plutôt le tour hein, sur cette rencontre. On va pas en rajouter plus. Juste rappeler quand même les résultats de ce quart de finale. Chelsea l'a emporté difficilement. Fait un peu peur, ouais. Face à Leicester, mais au final l'a emporté 4-2. City est passé face à Newcastle 2-0. Et Coventry a créé une petite surprise quand même contre les Wolves, hein, le 8e de Championship.
Oui, fin de match exceptionnel en plus.
Ouais.
Fin de match exceptionnel avec un but, je crois, à la 97e, un but à la 100e.
97 et 80. D'un 10 plus 10, hein, ouais, donc centième.
Ouais. Centième, ouais. Donc,
incroyable.
Et oui, bel exploit, oui.
Et alors que les Wolves égalisent à la 83e, marquent à la 88e, 2-1, et 97 et 100 pour la victoire, c'est tout simplement fou.
Non, non, mais les scénarios en FA Cup ce week-end qui ont été dingues.
Du coup, les demi-finales, on les connaît déjà. Ce sera le 20 avril. Coventry, Manchester United et Manchester City, Chelsea à Wembley. Ça va être de belles demi-finales en tout cas et qui vont avoir un peu de suspense quand même. Et puis en Italie, on avait parlé en preview notamment avec Alban et Tony un peu plus tôt dans la semaine, le match entre l'Inter et le Napoli. Alan, il y a eu ce match nul un peu décevant, un partout. On attendait peut-être un peu mieux. Alors, malheureusement, on n'a pas retenu grand-chose, si ce n'est un fait qui n'a pas sa place dans un terrain de football avec Acerbi. Ça tombe bien, c'était la journée contre le racisme en Serie A.
Non, mais...
Ouais, non, mais enfin, sans commentaire, ah, on ne va pas refaire le monde. Voilà. Voilà.
36 ans, hein, c'est pas un jeune petit jeune et tout en plus. Hein. 36 ans, Acerbi, il fait encore des...
Et il risque de prendre cher en plus. Hein. 10 matchs apparemment.
10 matchs, ouais, bah, c'est mérité. Après, pour aller dans la continuité de ça, c'est que l'Inter, dans tous les cas, bah, ils n'ont plus rien à jouer. Hein. Ils sont quasiment champions. Il n'y a plus que le derby qu'ils ont intérêt à gagner puisque ça fait partie des matchs à ne pas louper. Mais après, ils affrontent que des petits jusqu'à la fin de saison. Ils ont passé tout le gros. Le Napoli, c'était l'avant-dernier gros choc. Donc, l'Inter a fait le taf.
Oui, et puis surtout qu'il n'y a plus que le championnat à jouer pour l'Inter. Quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, bon, ça ne justifie pas du tout que Acerbi pouvait faire ça. Parce que c'est un
cas. Non.
mais pour dire que l'Inter. Enfin, ce que tu parlais du match, oui, l'Inter n'a pas fait un grand match parce que l'élimination leur a coûté voilà, un peu le moral. Mercredi face au Colchoneros, mais sinon oui ça. Le Napoli a fait aussi avec leurs armes. Le Napoli qui est pas non plus en grande forme, donc a pas pu faire mieux qu'un match nul. C'était un match, on s'attendait pas à grand chose finalement, mais c'est quand même passé pas mal de choses en Serie A. C'est intéressant parce que t'as Bologne qui gagne dans les derniers instants. Ça c'est pas mal. On pensait qu'ils allaient enfin perdre des points, ben ils gagnent dans la 95e ou 94e, je sais plus. Donc belle perf. La Lazio qui a officialisé Tudor aujourd'hui, donc ils faisaient qui jouait avec un coach intérimaire. Ils ont réussi à l'emporter face à Frosinone aussi. La Juventus dégueulasse, match à midi 30.
Oh là là. Alors, oui, 30, j'allais en parler. J'ai fait l'erreur de regarder la Juventus de Turin. Ah bah, oh là là, mais Tony, je t'envoie tout mon soutien dans ta lutte pour voir Allegri partir de ce club. C'était horrible. Voilà, c'était horrible. J'ai commencé ma journée foot par ça. Je ne ferai plus l'erreur.
Et puis Allegri qui s'est aussi démarqué par rapport à cette fameuse journée spéciale contre le racisme. Il n'a pas voulu réciter un texte par rapport à la démarche. Donc bon, voilà.
C'est catastrophique, du coup.
Sans commentaire.
Bon. Le match était horrible, en tout cas. Vraiment, ça n'arrivera plus. De mon côté. Ouais, ouais.
Midi et demi, en plus.
les matchs de dimanche midi 30 en Italie, c'est souvent des purjas. Hein,
non, mais franchement, j'étais enthousiaste. Je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé la Juventus. Je vais aller voir un peu ce que ça donne, etc. Ah, je regardais un peu la compo. Je me suis dit, la petite association Chiesa-Vlahovic.
Et Bologne,
ne faites pas la même erreur que moi.
Bologne qui revient du coup à 5 points de la Juve.
Attention. Ça va être intéressant la fin de saison en Serie A avec la Roma qui a aussi elle gagné et qui montre qu'avec De Rossi, la Roma a un effectif pour potentiellement viser le top 4. Donc ça va être la lutte pour le top 4, voire le top 3, parce que quand tu es top 3, tu gagnes une belle prime quand même comparé aux autres places.
Oui, parce que j'allais dire top 3, top 4, au final, au niveau de la Ligue des Champions, on s'en fiche un peu. Mais...
Et puis d'autant plus que si un club italien gagne la C3, il y aurait 5 places aussi du coup, qualificatif, donc ça mais il faut si t'es deuxième tu gagnes 24 millions d'euros par exemple, c'est pour ça que l'AC Milan va tout faire aussi pour rester deuxième. Ah oui. Parce qu'ils sont invités à jouer la Super Coupe d'Italie en Arabie Saoudite et il y a 24 millions d'euros à la clé, donc il y a tout cet enjeu là donc malgré le fait que l'Inter soit large leader, il y a pas mal d'enjeux dans le haut de tableau. Et l'AC Milan, oui, du coup, qui a gagné 3-1 avec un super beau but de Chukwueze qui marque son premier sous les couleurs milanaises, qui est un peu en difficulté, hein, le Nigérian, et un AC Milan qui, sans trop trembler, s'est défait de la racaille Vérone, parce que j'aime pas trop ça. Mais la Vérone, quoi. Je suis pas chez Cœur Rossonero, je dois être objectif.
Mais... Non, mais tu sais, on aime bien.
Petit dérapage. Petit dérapage, petit oubli.
Non, mais c'est contrôlé. Il a fait hop, je suis pas chez Cœur Rossonero.
Oh là, pardon.
Mais bon. avec un brillant Théo Hernandez aussi, qui là.
Qui a des stats incroyables.
Bon augure pour l'équipe de France à l'Euro prochain, parce qu'il est. En super forme.
En espérant qu'il reste en super forme jusqu'à juin prochain. On a un peu débordé, mais c'est pas grave. On va prendre le temps aujourd'hui. C'est la trêve, donc on va prendre le temps qu'il faut. Et on voulait vous parler, bien sûr, dans le débat de la semaine, de la Ligue des Champions, puisque les huitièmes de finale se sont terminés un peu plus tôt la semaine passée. Avec, vous le connaissez maintenant, le tableau des quarts de finale avec le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, le remake du remake du remake. L'Atlético face au Borussia Dortmund, Arsenal fera face au Bayern Munich et nous aurons le Real Madrid face à Man City. Là aussi, on a un remake du remake du remake. 3 ans d'affilée qui s'affrontent, ceux-là. On n'en peut plus. Mais en tout cas, le sentiment global qui s'est dégagé, notamment sur les réseaux, c'est que ces 4 rencontres, en fait, redonnent une certaine hype à cette Ligue des Champions, puisqu'on a vu quand même pas mal d'engouement autour des rencontres, même autour d'un Atlético Borussia Dortmund qui paraît être la plus faible des 4 oppositions. Il y a quand même quelque chose, il y a un engouement. Et la question qu'on voulait se poser et que on va vous poser forcément à vous, chers auditeurs, c'est: est-ce que vous êtes hypé par cette Ligue des Champions? Moi, je pense que le sentiment général dans cette équipe, c'est qu'on l'est tous, plus ou moins. Même si par exemple, je prends ceux qui sont dans l'émission aujourd'hui, nous ne sommes pas directement concernés.
Et non.
Parce que nous avons la meilleure compétition européenne de football cette saison.
On débattra sur l'hymne de l'Europa League que je trouve très sous-coté.
Il vient de descendre dans mon estime, l'hymne, du coup. Il est plus si bien que ça, au final.
Il est fou, ce mec. C'est une boîte à son. C'est une soundbox.
Tu
lui donnes un titre ou un
beatbox,
une mélodie, il te la sort instantanément, quoi. C'est
un vrai.
On peut pas s'en empêcher.
C'est un artiste. On peut pas comprendre. Mais ouais, voilà. Alors, Karel, toi, c'est parce que on a préparé l'émission tous ensemble et puis c'était l'une de tes idées, ce débat autour de la Ligue des Champions. Je te laisse la parole parce que c'est vrai que cette Ligue des Champions, il y a eu beaucoup de critiques hein, depuis maintenant quelques années. La Ligue des Champions est plus attractive, n'est plus ceci, n'est plus cela. Mais au final, on se rend compte que elle fait parler, elle fait toujours autant parler et que là, les affiches des quarts de finale sont quand même très alléchantes et il y a plein d'histoires à raconter.
Ouais, je pense déjà que nous, sur nos cas personnels, le seul avantage, on va dire, de ne pas avoir, entre guillemets, nos équipes impliquées, c'est qu'on est un observateur neutre et qu'on peut, du coup, regarder les affiches sans absolument aucune pression. Et ça, il faut le dire, par moment, ça fait plaisir, même si, évidemment, qu'on préférerait que nos équipes soient en Ligue des Champions. Mais après, en dehors de ce prisme-là, moi, je trouve que toutes les affiches, en fait, sont indécises. Moi, c'est ça, en fait, qui me plaît sur ces quatre quarts de finale. C'est que, bien malin, qui saura prédire le gagnant de ces quatre affiches à chaque fois. Parce que je trouve que, voilà, en fait, et ce qui est intéressant également, c'est que les cartes, au fur et à mesure des années, ont été un peu rebattues. Il y a quelques années, une affiche Arsenal-Bayern Munich, tu m'excuseras Florent si tu nous écoutes, on savait très bien comment ça allait finir. Ça finissait souvent très très mal pour Arsenal. Là, je trouve que les dynamiques de club, et donc les dynamiques d'équipe aussi, sont un peu inversées. T'as un club d'Arsenal, une équipe d'Arsenal qui est sur la pente très ascendante, qui monte en puissance, qui pour moi, vraiment dans les prochaines années, va évoluer à un niveau encore plus élevé que celui-ci qui est déjà très très bon. Et puis un Bayern Munich, on en parlait la dernière fois en parlant du FC Hollywood avec Victor et en disant que ça ressemblait de plus en plus au PSG ce qui se passait au Bayern Munich en ce moment, avec Tourelle qui va partir à la fin de la saison. Des dirigeants qui sont constamment remis en question, des joueurs qui ne veulent pas prolonger et qui aimeraient partir, qui fait aujourd'hui que, voilà, et même sur le plan sportif, on le voit où ils sont largués par le Bayer Leverkusen, ce qui fait que voilà, les cartes sont un peu rebattues, je trouve, sur la scène européenne, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt pour moi de cette affiche. Real Madrid-Manchester City, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que, et je pense que c'est encore peut-être mieux que les années passées, on va dire, parce que Manchester City a enfin sa Ligue des Champions, donc est une équipe voilà, à prendre au sérieux, même si on le faisait déjà sur la scène européenne, face au Real, qui, je trouve, n'a pas été flamboyant du tout contre Leipzig. Leipzig aurait pour moi même peut-être mérité de passer s'ils avaient su saisir leurs occasions, donc c'est pas du mérite, mais ils auraient pu passer, on va dire. Mais reste quand même très impressionnant en toute compétition confondue, on l'a dit, n'a perdu que deux fois, et puis voilà, et le papa de cette compétition, de toute manière, le Real Madrid. Donc voilà, donc sur cette affiche-là, t'as soit voilà, l'équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions qui va passer, ou Manchester City qui va s'ouvrir un chemin très intéressant potentiellement pour un doublé. Et puis PSG-Barcelone, on l'a dit, avec toute l'histoire que ça comporte. Et là encore, pour moi, un duel particulièrement indécis, avec tout le storytelling qu'il y a derrière. C'est-à-dire que Xavi part à la fin de la saison. Du côté du PSG, Mbappé part à la fin de la saison. Un PSG qui est un peu en reconstruction. Et Luis Enrique qui va retrouver le Barça en plus. Je trouve qu'il y a des petites histoires, des petites choses dans chacune des rencontres. J'ai pas parlé d'Atlético Dortmund parce que c'est peut-être là où tu as un peu moins d'histoires. Mais on le disait juste avant, on a parlé de l'Atlético que j'ai trouvé très très bon contre l'Inter, et tu peux avoir un Barça-Atlético qui se profile en demi. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais pour moi, pour toutes ces raisons, et puis vous pourrez me donner votre avis, moi ça me hype particulièrement parce que voilà, il y a des petites inversions, des cartes qui sont rebattues, et puis un historique dans chacune des confrontations qui vont être serrées pour moi. Donc très hâte de voir ça.
Ouais, moi je regrette le fait qu'on n'ait pas un match par soir et que c'est sur deux semaines. Parce que
que les doubles écrans, ça va deux minutes, mais bon, tu peux pas vraiment voir le match, quoi. C'est...
Parce qu'on va avoir un City Real Madrid en même temps qu'Arsenal Bayern, je crois. Tu vois.
Ouais, c'est une calamité. C'est calamite, quoi. Enfin,
ouais, mais ça va être hyper hypant, comme tu l'as dit, hein, pour pas paraphraser. C'est que des chocs indécis. En plus, comme tu dis, il y a des petites histoires de part et d'autre, et il y a des joueurs aussi individuellement qui veulent aussi aller décrocher ce ballon d'or, parce que moi je trouve que même la course au ballon d'or, de par ce tirage,
on
va battu pour ça.
Et même la course au ballon d'or, cette saison, est un peu indécise, pardon Alan, mais c'est vrai ça aussi c'est intéressant.
Bah ouais, t'as Mbappé du coup avec le PSG, t'as Bellingham avec le Real, Harry Kane avec le Bayern, d'autant plus qu'il y a l'Euro en plus qui va enchaîné. Donc, il y a plein de points d'interrogation. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai que sur ces dernières éditions, on avait toujours des affiches, encore au moins une affiche qui n'était pas alléchante, voire deux par moment. Je me souviens quand il y avait les Tottenham, les Villarreal qui allaient en demi, etc. Donc, il y avait vraiment des affiches qui ne nous hypaient pas forcément. Là, pour le coup, on va être servi. Ça va être du caviar, vraiment. Et on n'a qu'une seule envie, c'est déjà de prendre nos places pour notre canapé, pour voir le match. Parce que, sauf si on peut aller au stade, hein, je ne sais pas si on a qu'auront cette chance-là.
On n'a pas le budget, malheureusement, là. On ne pourra pas te permettre ça.
Ah bah, en dehors même du budget, c'est vraiment la difficulté d'avoir des places, quoi. Moi, si on me donnait l'occasion d'acheter une place pour un de ces quarts, je pense que je mettrais le budget, mais il faut avoir l'occasion de l'acheter, la place, quoi.
Non, mais Alan a raison, on nous sert du caviar, c'est pas des œufs de limpe hein, qu'on a là, c'est vraiment de la qualité. Y a des histoires, il y a un storytelling de fou dans chaque rencontre, au final. Je pense à Atletico Borussia Dortmund où ce sont deux équipes qu'on ne voyait pas forcément à ce niveau-là en début de saison et qui, au final... se hissent en quart de finale dans le top 8 européen et qui peuvent espérer une demi-finale avec toutes ses chances. Le Borussia Dortmund qui revient très bien sur ses deuxième partie de saison. Un Atletico qui était un peu plus impérial en début de saison et qui l'est un peu moins cette année dans cette deuxième partie va devoir faire preuve de plus de force pour trouver le moyen d'arriver en demi-finale. Voilà, il y a beaucoup de choses à raconter. Le Barça, PSG, voilà, l'histoire se fait d'elle-même avec la remontada de 2017, pardon. L'affrontement de 2021 également, qui a été fou. Il y a beaucoup Dembélé de choses.
Dembélé aussi, qui revient. Dembélé, puis Cédric dans l'autre sens.
Exactement, il y a beaucoup de choses à raconter. Le City, Real Madrid, sur les deux dernières saisons, ça a été un affrontement qui a porté ses fruits. Et puis Arsenal-Bayern, voilà, Arsenal qui revient après quasiment une dizaine d'années de traversée du désert en Ligue des Champions. Revient avec.
En quart, je crois que c'est 14 ans.
Ouais, c'est ça.
Il a été en quart. Hein.
14 ans sans quart de finale pour les Gunners. Et puis le Bayern Munich qui n'est pas l'équipe non plus la plus sereine de cette saison. Donc Arsenal a toutes ses chances. Donc honnêtement, il n'y a aucun scénario, enfin aucun match qui me dit bah, celui-là va gagner. Non, on ne peut pas ça. Là, franchement, sur ce quart de finale, je suis hypé parce que je n'ai pas de. Je suis dans l'incapacité aujourd'hui. Alors. Au feeling, je peux dire oui, je pense que c'est telle ou telle équipe, mais ça aura presque pas de valeur puisque pour moi.
Et l'inverse ne te surprendrait pas.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est plus dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'indécisions, je trouve, dans ces quarts de finale, et c'est super. Et c'est super. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de hype autour de la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de hype sur l'Europa League et à juste titre, bien sûr, parce qu'il y a des équipes fantastiques en Europa League. Et l'Europa League, d'ailleurs, ça fait plusieurs saisons que c'est le cas. Hein. Mais la Ligue des Champions, cette année, c'est du très haut niveau. C'est du très haut niveau. On a eu des huitièmes de finale assez intéressants, puisque c'était plutôt indécis. Hein. Il n'y a que deux équipes qui ont gagné leur match aller-retour, c'était le PSG et Manchester City. Sinon, ça a été très indécis sur les autres huitièmes de finale. Donc moi je trouve que on est trop dur avec cette compétition et que au final on nous sert de très belles choses et ça sera peut-être l'occasion d'en faire un hors-série et je pense même que le nouveau format accentuera cette diversité et cet engouement. Mais bon, ça c'est mon avis. Nous aurons très certainement un jour un débat sur ce nouveau format de la Ligue des Champions qui crée beaucoup de controverses. Si vous avez rien à rajouter, on peut se faire un petit kiff avant de passer sur l'édito Vincenzo Italiano. Pour vous, qui seront les demi-finalistes?
Oh. Alors attends.
Allez, déjà PSG Barça.
Laisse-moi regarder dans ma boule de cristal.
PSG Barça, on est parti. Allez.
PSG Barça. Moi je mise sur Barça.
Barça.
Bah tu sais quoi, moi je dis PSG. Voilà, comme ça fait un peu de contradiction.
Barça et je garde ma hot take que j'ai mis sur le groupe, ils vont aller jusqu'au bout.
Moi je vois un giga Mbappé moi contre le Barça, voilà, qui est un peu reposé en plus en Ligue 1 puisque Luis Enrique veut habituer le PSG à faire ça. Donc Mbappé va peut-être ça déchaîner toute sa frustration sur le Barça.
Ça l'empêche pas de mettre des triplés contre Montpellier quoi.
Oui, enfin, voilà.
C'est bah bon.
Sacré but encore d'ailleurs. Mais bon,
oui, c'est pas celui-là. Dortmund Atlético. Allez.
Atlético.
Dortmund.
Oh, Atlético, moi aussi. pour Griezmann, je l'ai mis, j'ai fait un post qui a fait un peu polémique sur les réseaux. J'ai dit que Griezmann pouvait espérer le Ballon d'Or, moi, cette année, avec une grosse campagne à l'Euro et avec.
On sait que Griezmann est toujours énorme.
L'Euro, plus, et puis s'il va loin en Ligue des Champions, s'il la gagne, ça peut être. Et
il a été déjà très bon cette saison, d'ailleurs, Griezmann, en dehors de ça.
Oui, en plus.
Barça, non, ça j'ai déjà fait, pardon. Real Madrid, City.
City.
Moi aussi, City.
J'ai du mal à voir qui sur. Peut-être sur un match Manchester City, mais c'est.
Ouais, bon. C'est encore un peu tôt, je pense. D'ici un mois, on aura peut-être plus d'éléments pour en parler.
J'attends de voir.
Là, voilà, c'est comme ça.
Je dis même Manchester City. Vous dites qui, vous
City aussi. Oh, ouais. Et le dernier, Arsenal-Bayern.
C'est celui-là, je trouve que c'est vraiment le plus dur. Moi, c'est celui où j'ai le plus de mal à me prononcer parce que là, comme ça, en fait, sur la qualité des équipes, je te dis Arsenal, mais sur le pédigré européen, j'ai l'impression que. Parce qu'on les a vus contre Porto, tu vois. On a vu que ça pesait quand même dans la balance, ce pédigré. Porto qui a plus de pédigré en Ligue des Champions sur les dernières saisons. Voilà, on a vu quand même que ça pesait dans la balance.
Moi, j'ai vu dire Bayern. Bah, pour exactement ça, pour le pédigré. Et à l'inverse, hein, ils ont le match retour. Ils ont eu un peu de mal contre la Lazio, mais au final, ils ont gagné 3-0, 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. Donc,
je dis Arsenal.
Oh. Je vais dire Arsenal aussi.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que Tourelle n'a jamais donné la leçon à Arteta, et Arteta continuera à donner la leçon à Tourelle. Voilà.
Moi, j'ai envie de voir Arsenal contre une équipe qui s'ouvre aussi. Contre une équipe qui va venir les chercher, etc. Contre qui ils vont avoir un peu plus d'espace. Sachant qu'Arsenal, je crois avoir vu passer la stat, est l'équipe qui concède le moins de d'XG en Ligue des Champions cette saison. Donc il va falloir aller les marquer, les buts aussi, pour le Bayern. Donc je vais dire Arsenal aussi.
Bah, rendez-vous dans un mois, messieurs.
Et comme ça, au pire, si on se trompe, on pourra se moquer de Flo. Et ça n'a pas de prix.
Oh, ça, c'est vraiment priceless, ça, vraiment. Incroyable. Eh ben écoutez, rendez-vous dans un mois, messieurs, pour ces quarts de finale, dont on parlera évidemment dans temps additionnel dans les épisodes.
Ça m'a hype là, ça m'a hype de fou d'en parler. Voilà, je me prendre la sélection, la trêve internationale dans le front après ça, ça me fait mal.
Ah, ça sera un avant-goût de l'Euro, Karel.
C'est vrai. Ouais, non, c'est pas vrai. Ça marche pas. Ça marche pas comme.
Vincenzo Italiano. Pourquoi on décide de parler de Vincenzo Italiano? Puisque en ce début de trêve, ça commence beaucoup à parler de Vincenzo Italiano, notamment de son avenir. Nous, on voulait quand même, et puis à travers un de nos spécialistes Serie A, qui est Alan, parler de l'entraîneur de la Fiorentina, puisque voilà, la Fio, c'est quand même depuis deux saisons très très fort. La Fio qui est toujours en course pour l'Europe en Serie A. Et forcément, ça crée de l'engouement autour de l'entraîneur italien, puisque ça parle beaucoup d'un départ d'Italiano à la fin de saison, et pourquoi pas pour un top club en Italie.
Ouais, c'est quasiment acté, hein, d'après les médias italiens. Vincenzo Italiano, comme tu l'as dit, l'une des étoiles montantes en Italie, qui après 3 ans de bons et loyaux services, va quitter la Fiorentina à l'issue de la saison. Après une période réussie à la Spezia, c'est à la Fiorentina qu'il a surtout impressionné, hein, par son style offensif, avec un 4-3-3 qu'il utilise vraiment bien. Et c'est intéressant d'en faire un édito, je trouve aussi, parce que c'est un des entraîneurs qui va faire parler cet été, à n'en pas douter. Et pour la petite histoire, il a commencé tout en bas de l'échelle, hein, parce qu'il est en seulement 7 ans, il a fait des 4 finales Ligue Europa. C'est quand même fou, je trouve, surtout en Italie, hein, parce que c'est vrai que les clubs italiens, de manière générale, ne sont pas, font pas de super perf en Europe ces dernières années. Quoique, ces dernières années, à part l'année dernière où il y avait l'Inter, l'AC Milan, et la Fio et la Roma dans le dernier carré. Mais pour en revenir à Monsieur Vincenzo Italiano, c'est un coach voilà qui a pour modèle Gasperini, donc c'est dire un peu le pour situer un petit peu, et qui s'inscrit dans la lignée des nouveaux coachs prometteurs comme Inzaghi, comme De Zerbi, comme Paladino de Monza, qui est excellent aussi. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il a fait de la Fiorentina l'une des équipes les plus séduisantes à jouer. Franchement, on s'ennuie vraiment pas. Et c'est un mec qui a une forte personnalité. Donc, j'ai hâte de voir où c'est qu'il va signer par la suite, parce que c'est le genre d'entraîneur qui avait déclaré un jour Si tu veux avoir de bons résultats, tu es obligé de bien jouer. Tu ne peux pas mal jouer. Ce qui est un peu en concordance avec les coachs italiens des décennies antérieures. Et voilà, c'est Vincenzo Italiano, pour résumer, c'est un football qui est fait de mouvements, qui est avec beaucoup de liberté balle au pied, beaucoup de symbiose sur le plan tactique et technique aussi. Un jeu qui encourage la prise de risque et les Florentins sont du coup très contents de l'avoir eu, parce qu'avant lui c'était Montella, Prandelli ou Iacchini, etc. Et du coup, ben, dans ses défauts quand même qui sont notables, moi je trouve que c'est une équipe très irrégulière, la Fiorentina, et je pense que Vincenzo Italiano, pour la suite, s'il veut réussir à perdurer dans le foot et réussir dans un grand club, c'est qu'il va devoir avoir une rigueur sur 38 matchs. Parce que lui, c'est un mec, sur des coups d'éclat, il est quand même d'impressionner. Il a, comme je l'ai dit, fait une finale d'Europa League l'année dernière, qui perd contre West Ham. Donc, il sait jouer les gros matchs, il sait subir la pression. Mais je trouve quand même qu'il est très décevant par moment. J'ai beaucoup critiqué la Fiorentina dans les anciens formats de temps additionnel, c'est pas pour rien. Mais cela dit, il va avoir de très belles invitations dans sa boîte aux lettres cet été, puisqu'il y a déjà le Napoli, la Juve, pourquoi pas l'AC Milan aussi, qui sont sur lui. Personne ne veut laisser filer cet entraîneur qui est prometteur. Donc, je ne sais pas où c'est que vous le verrez, vous, les gars, pour la suite de sa carrière, mais ça reste un entraîneur qui aura beaucoup de sollicitations cet été, à n'en pas douter.
Moi, qui reste en Italie.
Moi, c'était la question que je me posais. C'est, est-ce que pour toi, c'est un entraîneur qui va rester en Serie A, ou est-ce qu'il peut s'ouvrir à d'autres championnats? C'est ça, ouais, la question.
Je pense qu'il faut qu'il réussisse déjà, oui, avec un grand club italien pour ensuite pouvoir s'exporter. Okay. Sinon, un peu comme Ancelotti finalement, ou Capello, qu'on réussit déjà sur les terres italiennes avant de s'exporter, parce que c'est un mec qui a beaucoup eu d'italiens aussi dans son équipe, donc je pense que la barrière de la langue, des fois, ça peut faire un blocage. On l'a vu avec Amrabat, à un moment donné, ils avaient un peu de mal, même si Amrabat savait parler italien, et je trouvais qu'ils avaient un peu du mal à communiquer. C'est un coach très, très ferme aussi, qui, je pense, qui peut être très explosif. Donc, il va intéresser beaucoup d'équipes, ça c'est sûr. Après, en plus, avec le marché des entraîneurs qui va être encore une fois animé cet été, ça attire vraiment la curiosité de savoir où c'est qu'il va signer.
Ça peut-être le Napoli, non ?
Napoli, c'est la piste numéro 1 de De Laurentiis. Okay. Après, Vincenzo Italiano, comme j'ai dit, il a vraiment du caractère. Donc, est-ce que ça peut matcher avec
Tu dis que ça matche avec le club et la ville, mais peut-être qu'avec De Laurentiis, De Laurentiis, il faudrait peut-être qu'il laisse un peu la place à ses entraîneurs.
T'as l'option Milan aussi. Parce que Pioli, on ne sait pas trop pour le moment ce que ça va donner. Donc, ça semble être la fin quand même pour Stefano Pioli. Donc, je pense que Italiano, du côté du Milan, ça peut se tenter.
Tu signes, Alan ?
Oui, si, je signe quand même, parce que je pense que c'est mieux que Pioli. Je sais que c'est un coach en plus qui a 45 ans, donc il a encore plein de choses à montrer, plein d'idées nouvelles. Ça peut matcher. En plus, nous, on joue déjà en 4-3-3 plus ou moins, 4-2-3-1 ou 4-3-3. Donc, ça me hyperait quand même un peu, mais c'est pas ma piste numéro 1.
C'est quoi ta piste numéro 1 au Milan ? Alan, j'ai l'impression qu'il est difficile avec ses entraîneurs. Il avait dit un nom très ferme à Nagelsmann, hein, par exemple.
Ah ouais, je préférais Lopetegui, par exemple, alors que ça a aussi une prise de risque.
Oui, mais c'est vrai que t'avais dit Lopetegui, c'est vrai.
Mais sinon, oui, j'ai pas trop d'idées. J'ai toujours peur, je suis toujours inquiet quand il s'agit qu'il y ait un nouveau coach à Milan. Mais pour le coup, en plus, Vincenzo Italiano, c'est un joueur qui était professionnel avant, mais qui a jamais joué ni dans les grosses écuries de Serie A. Donc, il a pas forcément de préférence.
Mais ouais, le Milan, après, bon, en Italie, il y a pas grand chose, hein, malheureusement.
Il y a la Juve avec insistance, qu'il aimerait bien.
Ouais, mais le problème, c'est que tu vas peut-être aussi prolonger Allegri, donc tu sais pas.
C'est pas Thiago Motta, la piste numéro 1 à la Juve ?
Non, c'est deuxième Motta maintenant.
Ok.
Enfin, ça dépend les médias, mais c'est Motta et Italiano.
Après, Motta en cas de qualification en Ligue des Champions avec Bologne, ça peut rester du côté de Bologne, hein, donc attention.
Ouais, ouais, c'est ces deux entraîneurs qui émergent énormément et qui, d'ici la fin de la saison, auront beaucoup d'offres. Italiano, lui, c'est sûr qu'il part, donc peut-être que ça sera plus facile de l'approcher.
On sait si De Rossi va rester à la Roma, par exemple ?
De Rossi, il a signé que jusqu'à juin, mais vu les belles perfs qu'il fait,
ils peuvent le prolonger.
Ça va être, ça va être un gain économique beaucoup plus.
Ah, bah oui, un De Rossi est moins cher qu'un Italiano.
Ouais, oui, puis en plus, Derossi Ball, là, depuis qu'il a repris le club, c'est quand même pas mal. Hein.
Ouais, bon, on a été mauvaise langue avec lui. On disait que c'était pas forcément la meilleure pioche pour la Roma, mais bon, force est de constater que la Roma va beaucoup mieux depuis le départ de Mourinho. Donc, grand bien leur face. Merci, Alan, de nous avoir un petit peu présenté le cas italiano.
Merci, puis, Alan.
De rien.
Puis, Alan from Buzak.
Et puis, alors, excuse-moi, Karel. Tu m'excuseras d'avance. Je sens que tu ne seras pas encore victorieux dans le quiz.
J'étais oh non, il y a un quiz. Oh non, je suis dégoûté.
J'étais un énorme flemmard. J'ai fait comme la semaine dernière. J'ai pris le sujet de l'édito pour le quiz.
Oh, bah je vais me faire ouvrir. Bon, tant mieux, ça me fera une excuse. Vas-y, balance.
Donc, sujet sur Vincenzo Italiano. Oh,
mais non, qu'est-ce que tu veux que je...
Oui, voilà, le quiz du jour, ce sera sur Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano, qui est un entraîneur qu'on connaît de plus en plus.
Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Mais qu'est-ce qu'il fait avec son spray là ? Vous le voyez pas vous, hein, mais.
Je sais pas, mais il se hype, il sait qu'il va me. Il sait qu'il va me mettre la fessée.
Quand je suis favori, je perds en général. Mentalement, je suis faible mentalement.
Ouais, mais. Vincenzo Italiano, je savais.
Ah, mais c'est des questions qui sont un peu compliquées quand même. C'est des questions qui sont un peu compliquées. Je vais.
Ok, peut-être que je peux chatter, c'est ce que
tu
entends ?
Tu peux chatter. Okay.
Okay, je fronce les sourcils.
Je veux totalement chatter. Alors, comme la semaine dernière, ça sera possibilité de réponse directe, 2 points. Sinon, je vous donne 4 propositions et vous aurez 1 point en cas de bonne réponse. On va commencer avec... attends, je vais donner... Celle-là, Alan. Allez, Alan. Avant de devenir entraîneur, dans quel rôle Vincenzo Italiano a-t-il commencé sa carrière dans le football professionnel ?
Il était...
Pas joueur, ouais.
Ah, et bah il entraînait les jeunes, non ?
T'as voulu répondre comme ça, là ?
Ah !
Non, mais trop tard !
Oui, bah oui, allez, hop, allez, ouais. Je dirais qu'il entraînait les jeunes.
Et c'est une mauvaise réponse !
Oh, non !
Il était analyste vidéo.
Ah !
Il a commencé en tant qu'analyste vidéo.
Mais moi, je pouvais pas tenter ma chance, là, du coup.
Non, parce que...
C'est une question chacun.
Exactement, il y a 5
questions. Ok, de toute façon, je pense que j'allais pas dire ça, j'allais dire je pense, ou un truc comme ça.
Karel, quelle équipe a été la première à confier Vincenzo Italiano le rôle d'entraîneur principal ? On en a parlé tout à l'heure, en plus. Si tu écoutes Alan...
On en a parlé tout à l'heure. Non, c'est la honte, j'ai totalement oublié, spoilé ça.
Je peux te donner 4 propositions, si tu veux.
Ok, bah je prends l'équipe de position, on va voir si je me rappelle d'un truc. Voilà.
La Spezia, Sassuolo, l'Udinese ou la Fio ? Alors...
Attends, mais c'est une catastrophe !
On en a vraiment parlé pour le coup.
Je me rappelle pas du tout, j'ai totalement spacé ça.
Alan l'a mentionné.
La Spezia, l'Udinese, Sassuolo ou...
La Fio.
Je me rappelle pas de...
C'est terrible.
Ouais, je vais dire l'Udinese.
Aïe, aïe, aïe.
Oh là là.
C'était quoi ?
C'était la Spezia.
Ok, mais je me rappelais pas du tout qu'il l'avait dit. Ok, je suis vraiment désolé.
0-0. Alan, quelle était la position finale de la Fiorentina sous la direction d'Italiano lors de sa première saison en tant qu'entraîneur ?
Ah. Ils ont joué la Conference League, l'Europa League, donc ils devaient être dans le passé. Je veux dire.
La première saison. Hein.
Première saison.
Ça, moi, tu me poses une question comme ça.
Sixième.
Sixième ?
Ouais. Non !
On va faire 0-0 !
Largement en dessous, 12e.
Ah ouais ?
Ah oui, première. Première saison, non.
Ah, franchement, Alan, sur ton championnat, c'est la honte. Hein.
Il y avait eu, il me semble, une victoire en Coupe d'Italie.
C'est vrai, contre l'Inter d'Inzaghi en plus.
Donc c'est pour ça que la FIO avait joué la Coupe d'Europe. Toujours 0-0, le jingle s'est arrêté, je le relance. Karel, quelle tactique Vincenzo Italiano a-t-il souvent utilisé en tant qu'entraîneur ?
La formation.
La formation, tout à fait.
Le 4-3-3 ?
Non.
Quoi ? Il n'a pas parlé de 4-3-3, Alan, juste avant ?
Oui, mais... Alors, selon une étude de tous ses matchs, quasiment, il y a eu beaucoup de 3-5-2.
Alan vient de parler de 4-3-3, je vais péter un plomb là.
Mais à la Spédia c'était 3-5-2. Ouais, mais là, à la Pio ils jouent en 4-3-3. Voilà.
Mais alors, tu sais quoi? Je vais l'accorder.
Let's go!
J'accorde un point.
On m'accorde toujours des points un peu miskines, moi. Voilà. Je suis vraiment le nul, quoi.
Voilà, c'est vraiment un point parce que voilà, tu me
franchement,
fais.
Franchement, là j'avais écouté tout à l'heure et Alan avait parlé de 4-3-3.
Oui, allez, un point pour Karim.
Avant... Je mène dans ce duel, c'est dingue.
Alan, avant de rejoindre la FIO. Non, ça je l'ai fait tout à l'heure. Pardon, excusez-moi.
C'était la Spezia.
Oui, non, mais c'est pas. Arrêtez, monsieur.
2-0.
Alan, avant de devenir entraîneur professionnel, dans quel club italien a-t-il terminé sa carrière de joueur?
Oh. On va voir les propositions?
Oui, Atalanta, Sampdoria, Roma, Fiorentina.
Tu regardes où là, Alan, juste comme ça? Parce que tu regardes sur la droite là, donc.
Bah, c'est quoi, j'ai réfléchi. Non, moi je m'en dis.
Ok, ok.
Là, j'aurais pas demandé les quatre. Tu peux les reciter du coup?
Atalanta, Sampdoria, AS Roma, Fiorentina. Aïe.
Sampdoria?
C'est la Sampdoria, bonne réponse.
Il l'a dit au pif, ça s'est vu dans ses yeux.
Non, c'est bien la bonne réponse. Bravo Alan, on sent que tu es le spécialiste Serie A de cette émission.
Oui. Vraiment.
Oh, sois pas jaloux.
Oh, je suis pas jaloux, j'ai le seum, c'est tout.
Il y a de ça, oui. Mais oui, il a terminé sa carrière en tant que joueur là-bas, tout à fait.
Bien joué Alan, c'est top.
Je le savais.
Si vous voyez sa tête, vous sauriez que.
Nouvelle question.
Il y a combien là du coup?
Il y a 2-1.
Ah ouais, moi c'est vrai que j'ai eu vraiment un point, une moitié de point quoi.
Ouais. C'est... Non, 1-1-1.
1-1, ok.
1-1. Nouvelle question pour toi, Karel. En quelle année Vincenzo Italiano a-t-il remporté a remporté n'importe quoi. Je lis sans comprendre ce que je lis. Est monté en Serie A avec la Spezia.
Oh, je le sais, ça.
Quand tu peux pas me faire ce genre, mais comment je suis censé. Vas-y, donne-moi les propositions que je réponde au pif. Vite.
Alors, 2017, 2018, 2019, 2020.
Alors, quand est-ce qu'est monté la Spezia?
Dis Siri.
C'est quoi? C'est 2017, 2018, 2019, 2020?
Ouais.
Eh ben, écoute, moi je vais dire 2019.
C'est une bonne réponse.
Voilà, let's go! C'est le souvenir que j'avais de la Spezia. Let's go!
Ah, je le savais en plus.
Alan, quelle équipe Vincenzo Italiano a-t-il rejoint après son départ de la Spezia en 2020?
De quoi?
Quelle équipe Vincenzo Italiano a-t-il rejoint à son départ de la Spezia en 2020?
Bah, non, il s'est barré en 2021.
En 2021, pardon, excusez-moi.
Ah bah, c'est la FIO. Il va là, il fait Spezia et après il fait Fiorentina.
Ah non, putain, attends, 2 secondes, je me suis trompé de question.
Ouais, hop. J'espère parce qu'elle est trop facile là, la question.
Non, bah, d'ailleurs, c'est la dernière que j'ai. Attendez, mon questionnaire est complètement pourri là.
On peut arrêter là. Hein.
attendez, parce que là, les questions que j'ai, finalement, j'ai pas tout relu, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce qu'on est en train de me proposer là.
Attendez. On a eu autant de questions chacun.
Ouais, mais non, il y en a pas eu assez. Il y en a pas eu.
Écoutez,
il y en a pas eu assez. Je vous en propose d'autres juste là, voilà. J'en ai d'autres qui sont en train de s'écrire. Merci à ChatGPT de me proposer tout ça. C'est un plaisir. Alan, tiens, allez, c'est parti. Quel joueur italien a travaillé avec Vincenzo Italiano lors de sa période d'entraîneur à la Spezia et l'a ensuite rejoint à la FIO?
Oh. Alors, les propositions?
Bellotti, Berardi, Bonaventura, Griffo.
C'est Bellotti.
C'est Bonaventura.
J'allais le dire en plus. Je jure que j'allais le dire.
Il a travaillé quand avec lui?
À la Spezia.
À la Spezia? Bon, je m'en rappelle pas du tout.
Visiblement. Hein.
Non, mais il était à Milan avant la FIO.
Non, mais en tant que... Comment dire? Je ne saurais pas t'expliquer. Parce que c'est ChatGPT qui a fait le questionnaire.
Moi, j'ai jamais vu jouer à la Spezia, Bonaventura.
Mais Bonaventura, il joue encore là ?
Bah oui. Il est même pris avec la. Ah non, il n'a pas été pris par le rassemblement là, mais il était dans la liste de Spalletti au dernier rassemblement.
Écoutez, ça doit être un énorme flop.
Il a juste jamais joué à la Spezia, hein, Bonaventura. Hein,
mais qu'est-ce que c'est que ce questionnaire à la
Pour ça, genre, quand j'allais le dire, c'est pas ce que j'allais dire du tout, c'était pour mentir.
Bon, la prochaine fois, je préparerai beaucoup mieux mon questionnaire, vous m'excuserez de ce flop intersidéral.
Mais je suis en tête.
On trouve nos réponses, elles sont bonnes en fait, depuis le début.
Non, mais c'est. Je sais pas, écoute. J'essaie d'en trouver une qui pourrait être pas mal, là. Si, allez, tiens, on va oublier celle que je viens de te donner. Celle-là doit être vraie, pour le coup, j'imagine. Contre quelle équipe Italiano a-t-il remporté sa première victoire en tant qu'entraîneur de la Fiorentina en Serie A ?
Je l'ai pas. Ah, c'est Milan, tiens.
Non, c'était Venezia.
Ah, Venezia. Ah, avec leur beau maillot.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te poser comme question, mon cher.
C'était la dernière, là ? Dis-moi que c'était la dernière.
Bon, Karel, tu veux gagner ?
Bah oui, évidemment. Non, mais ça dépend de quand tu comptais arrêter. Je vais pas.
Bon, allez, dernière.
Avoir une victoire faussée.
La dernière. Quelle compétition la Fiorentina Dans quelle compétition, pardon Oui, la Fiorentina a-t-elle atteint les demi-finales lors de la saison 2022-2023 sous la direction de Vincenzo Italiano
2022-2023
La saison dernière, du coup. Avant de se faire éliminer, bien sûr.
La saison dernière ?
Des propositions ?
Bah, de toute façon, les compétitions. Attends.
Bah oui,
t'as dit compétition européenne ?
Non, compétition.
Ah !
Bah, t'as trois.
La Coupe d'Italie ?
C'est une bonne réponse.
Oui ! Bah oui, je comprenais pas là.
Bon, alors, Karel a remporté une victoire. On va dire ça, parce que là, c'est une catastrophe.
Oh, mais je remporte le quiz.
Là, je lui laisse. Hein, je lui laisse.
Mais je remporte le quiz alors, le plus flopesque de l'histoire des quiz de théâtre.
Je m'en excuse, Alan. Pour le coup, le quiz que j'ai fait la semaine dernière sur Vinicius, c'était très juste, parce que j'ai vérifié avant de... Là, j'ai pas eu le temps. Je vais pas vous mentir, j'ai pas eu le temps de vérifier les questions. Mais bon, je me rattraperai. Pour le prochain décrassage.
Je viens de gagner un quiz sur Vincenzo Italiano. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la dinguerie.
Bon, tu as bénéficié d'un vice de procédure quand même. Là.
Les questions que j'ai eues, j'ai répondu juste. Hein, eh oh.
Oui, bon, allez, bonne réponse.
Bon, on va pas me manger toutes mes victoires quand même. Hein. Enfin, non. Ma seule victoire, pardon, excusez-moi. Vocabulaire n'était pas le bon, les mots, le mot n'était pas bien choisi. Mais...
Bon, et ben en tout cas, bravo à toi, Karel. Voilà.
Merci.
Merci,
Alan.
De rien.
Bon, la prochaine fois, promis, je préparerai beaucoup mieux ça parce que là, c'était une catastrophe.
Tu peux me laisser ça, Alan, il les gagne tout le temps, les quiz.
Oui, oui.
Alors que moi, ça va peut-être être ma seule victoire de la saison. Donc,
Je vais arrêter de faire confiance à ChatGPT, je pense. Aussi, ça peut être une
bizarre, normalement, c'est.
Okay. Bon. Eh ben merci messieurs de m'avoir accompagné sur cet épisode du Décrassage. Encore un très bon épisode que vous pourrez écouter cette semaine en temps de trêve internationale. Il n'y aura pas grand chose à faire. On se retrouvera dans la semaine. On aura, je pense, l'occasion de se retrouver très probablement en live sur Twitch. Je voulais qu'on ait des concepts un petit peu plus chill sur cette semaine internationale, étant donné que voilà, on n'a pas forcément le temps de proposer du contenu un petit peu plus détente. Je pense qu'on va le faire sur cette trêve internationale. On va vous proposer, je pense, des tier list. Pas la tier list céréale hein, dont on a parlé il y a quelques épisodes du décrassage.
Ça mériterait pourtant.
Pourtant, ça mériterait, je pense. Je pense qu'on fera peut-être deux parties.
Un épisode où on associe les marques de céréales avec des clubs. Et on explique pourquoi.
Et c'est pas une mauvaise idée, ça. C'est pas une mauvaise idée.
On va en parler.
On va en parler. En tout cas, restez avec nous pendant cette trêve. On sera présent. Et puis, pour le décrassage, on se retrouvera dans 2 semaines, puisque voilà, il y aura pas de décrassage pendant la trêve internationale. On se retrouvera du coup le 1er avril pour le prochain épisode du décrassage. Et puis, on espère que vous avez passé quand même une très bonne trêve internationale avec l'équipe de France ou même d'autres équipes nationales si vous suivez d'autres équipes nationales pendant cette trêve. C'était Temps Additionnel. Passez une excellente semaine avec nous et avec le football, tout simplement. Ciao tout le monde.